Bonsoir et bon début de semaine à tous. Dans une déclaration faite vendredi dernier, la coalition de la société civile de l'Équateur et la nouvelle société civile du Congo accusent les présidents de la République et le gouvernement central d'être à la base de la crise qui paralyse l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Faux, rétorque le porte-parole du gouvernement central qui estime que c'est un problème qui ne concerne ni le chef de l'État ni le gouvernement central. Pour lui, ce sont les acteurs politiques de l'Équateur qui sont eux-mêmes responsables de cette crise à laquelle ils doivent trouver solution. Comment analyser cette situation et quelles solutions y apporter? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 11 février 2013. Participe au débat Fabien Muguza, président de la coordination de la société civile de la province de l'Équateur. Monsieur Muguza, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir madame.
Maître Gilbert Kiatingé, avocat expert en décentralisation. Maître Kiatingé, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et Joseph Kongolo, analyste politique. Bonsoir monsieur Kongolo.
Bonsoir madame.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Sosten Nebaniaka de Kisangani dans la province orientale. Je pense que nous devons apprendre à respecter notre chef de l'État. Le porte-parole du gouvernement a raison car c'est l'intérêt égoïste qui prime sur celui de la population. Est-ce que c'est les chefs de l'État qui a demandé aux députés provinciaux de l'Équateur d'assiéger la Biaka Mbandaka? À quand la fin de la prise en otage de cette province par ses propres politiciens? Comme solution, il faut tout simplement dissoudre l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Alain Elanga de Mbandaka à l'Équateur, je suis contre l'avis du porte-parole du gouvernement, car le chef de l'État est le garant de la nation. C'est lui qui engage la nation et l'Équateur est l'une des provinces de sa juridiction. Son mot suffit pour résoudre tout problème. Merci de nous suivre à Mbandaka dans la province de l'Équateur sous la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Province de l'Équateur, la coalition de la société civile de l'Équateur et la nouvelle société civile congolaise accusent le président de la République et le gouvernement central d'être responsables de la crise politique qui paralyse l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Elle estime aussi que les représentants de l'Équateur au Parlement ont failli à leur mission quant à la crise qui sévit dans leur province. Fabien Muguza, président de la société civile de l'Équateur et porte-parole de cette coalition, le dit au micro de Ghislaine Nentobo.
D'abord, il faut que le président de la République puisse prendre acte de la motion de défiance votée par l'Assemblée provinciale contre monsieur le gouverneur de province en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement central peut prendre en compte les résolutions pertinentes de la 7e réunion extraordinaire du Conseil des ministres du vendredi 19 octobre 2012 qui disait que tout député ayant changé de parti politique perd automatiquement son mandat pour mettre fin aux agissements illégaux de M. Kini Osekto. Et aux sénateurs et députés nationaux, ayant observé la marginalisation de leur province, de notre province, nous pensons que leur présence au Parlement ne vaut plus rien. Nous leur demandons de quitter dans les plus brefs délais, de revenir ici à l'Équateur pour qu'ensemble nous sachions comment organiser notre province et nous prendre en charge.
En réaction, le porte-parole du gouvernement central estime que la coalition de la société civile de l'Équateur cherche des boucs émissaires face à un problème qui ne concerne ni le président de la République, ni le gouvernement central. Pour Lambert Mende, les acteurs politiques de l'Équateur doivent trouver une solution à cette crise dont ils sont eux-mêmes les auteurs. Lambert Mende est joint par Michel Kifinda.
Nous avons 11 gouvernements provinciaux dans la République. Pourquoi diable voulez-vous que le gouvernement et le président n'aillent s'aimer des troubles que dans un sur les 11, alors que partout ailleurs cela se passe bien? Il faut que les gens sachent trouver en eux les solutions aux problèmes qu'eux-mêmes posent. Il ne faut pas tout le temps se livrer à la recherche de boucs émissaires. La faute, c'est toujours les autres. Nous savons très bien que l'Équateur est en crise. Nous essayons d'aider à résoudre cette crise, mais vous savez que les institutions provinciales ont un certain degré d'autonomie que le gouvernement se doit de respecter. Donc on ne peut pas venir utiliser le gouvernement pour museler un camp contre un autre, il faut qu'ils se mettent tous d'accord et que démocratiquement, ils parviennent à une solution.
La crise institutionnelle à l'Assemblée provinciale de l'Équateur perdure. Cette province se retrouve aujourd'hui avec deux bureaux permanents qui se disputent la légalité. Alain Rung revient sur les derniers événements.
C'est depuis 2012 qu'une crise paralyse l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Un groupe de députés provinciaux qui refusait de voir Gaston Quilio diriger le bureau permanent de cette institution avait désigné Jean-Gontran Ibambe président du bureau. Les tiraillements entre les deux partis ont entraîné la suspension deux fois de toute activité dans cette institution. À la reprise des travaux au mois de novembre dernier, Jean-Gontran Ibambe a été porté à la présidence de cette institution. Le vice-président du bureau, Richard Mboyo, a par la suite perdu son poste au perchoir. Sous la direction du nouveau bureau, une motion de défiance contre le gouverneur de province a été votée le 17 décembre 2012. Mais le même jour, un arrêt de la cour d'appel de Mbandaka réhabilitait le vice-président Richard Mboyo dans ses fonctions et avec lui le bureau Gaston Quilio, ce qui de facto rendait caduque la motion de défiance votée contre le gouverneur. Depuis lors, l'Assemblée provinciale de l'Équateur se retrouve avec deux bureaux parallèles, deux cachets officiels parallèles. Cette situation a occasionné un incident mardi dernier à la Biak Mbandaka où les deux bureaux se sont présentés pour sortir des fonds du compte de l'Assemblée provinciale. La Cour suprême de justice qui doit trancher sur la légalité de l'un ou l'autre bureau ne s'est pas encore prononcée.
Merci Alain Rung pour ces détails. Fabien Mungunza, je rappelle que vous êtes président de la coordination de la société civile de la province de l'Équateur. On vous a suivi tout à l'heure dans le son. Vous pointez du doigt le président de la République et le gouvernement central d'être responsable de la crise qui sévit actuellement dans la province de l'Équateur. Pourquoi pensez-vous que Kinshasa serait à la base de cette crise?
Oui, merci pour la parole, madame. Nous disons que le chef de l'État n'est pas à la genèse de la crise qui sévit dans la province de l'Équateur. Mais sa responsabilité se situe au niveau de la gestion de cette crise. De par les responsabilités constitutionnelles qu'il a, des garants de la nation, il a même dirigé un conseil de ministres qui a décidé du respect strict des dispositions constitutionnelles pour ce qui est des députés ayant changé de parti. Et on ne peut pas comprendre que ces dispositions-là soient foulées aujourd'hui aux pieds par un individu et que cet individu ne soit pas inquiété. Voilà un peu ce que nous déplorons de la part du chef de l'État.
Et donc vous voulez dire que le chef...
Il n'est pas à la genèse du conflit, mais c'est dans la gestion de ce conflit. Conformément à ses obligations constitutionnelles, nous trouvons qu'il ne fait pas suffisamment d'efforts pour que nous puissions sortir de la crise dans notre province.
Et où est la responsabilité du gouvernement central dans cette crise?
Oui, le gouvernement central, madame, sa responsabilité se situe à deux niveaux. Il y a deux problèmes. Il y a la mise en accusation, par exemple, du gouverneur sortant. Il a été notifié par la Cour suprême. Et les lois de la République, notamment la loi électorale, dit que dès lors que le gouverneur est mis en accusation, tout le gouvernement est réputé démissionnaire. Et c'est le vice-gouverneur qui expédie les affaires courantes avec le reste du gouvernement. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout le contraire. Le ministre de l'Intérieur, plutôt que de notifier le gouverneur sortant, il croise les bras. Entre-temps, ce dernier continue à poser des actes de gestion dans la province, ce qui sème totalement la confusion, non seulement au niveau de l'Assemblée provinciale, mais également au niveau de la tête de l'exécutif provincial. Voilà pourquoi nous disons qu'ils ont une responsabilité importante dans la gestion de ces conflits-là. C'est comme si les gens voudraient que les conflits puissent perdurer, et continuer à enfoncer la province dans le noir.
Dans la même déclaration, Monsieur Mungunza, vous estimez aussi que les représentants de l'Équateur au Parlement ont failli à leur mission quant à la crise qui sévit dans cette province. Vous leur demandez même de quitter le Parlement pour rentrer à l'Équateur afin de vous prendre en charge. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, nous ne disons pas tellement que eux, en tant qu'individus, ont failli à leur mission. Mais nous avons observé que la province de l'Équateur est marginalisée par le pouvoir de Kinshasa. Ce n'est un secret pour personne. Vous n'avez qu'à voir la composition du gouvernement national. L'Équateur n'a qu'un seul ministère. Et même les propos tout à l'heure de M. le ministre de la Communication tendent à faire croire que l'Équateur ne fait pas partie de la République démocratique du Congo. Les mêmes problèmes se sont posés dans d'autres provinces, mais ils ont été résolus dans le cadre légal, dans le cadre de la Constitution. Mais il dit que les enfants de l'Équateur doivent se retrouver pour trouver des solutions à leurs problèmes. Mais nous sommes en train de nous poser la question de savoir quel est le cadre juridique qui va réunir tous les originaires de l'Équateur pour réfléchir et trouver solution aux problèmes qui se posent maintenant dans notre province. Et donc, parce que c'est l'Équateur, il faut trouver des démarches qui sont en dehors de la légalité, en dehors de la Constitution. Ça ne fait que renforcer les présomptions que nous avons de la marginalisation de notre province.
Alors, on a suivi le porte-parole du gouvernement qui dit que les politiciens de l'Équateur sont eux-mêmes auteurs de cette crise qui se passe dans cette province. Et il a même dit que vous cherchez des boucs émissaires. Le gouvernement n'est ni responsable, ni le gouvernement, ni le chef de l'État n'est responsable de cette situation.
Ah non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que dit le porte-parole du gouvernement. Je voudrais dire qu'il s'agit d'un problème de droit, simplement. La motion de défiance est constitutionnelle. Elle est inscrite dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Et l'Assemblée provinciale a pris soin d'observer la procédure telle qu'elle doit être faite. Et maintenant, l'Assemblée s'est prononcée. L'Assemblée s'étant prononcée, tout est mis en œuvre pour que cette motion de défiance ne soit pas exécutée. Et je vous ai parlé tout à l'heure là de la mise en accusation du gouverneur de province sortant, qui a été notifié par la Cour suprême. La loi de la République, la loi électorale, dit clairement qu'il doit démissionner et que tout le gouvernement ne peut expédier que les affaires courantes sous la direction du vice-gouverneur. Mais cela ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que le ministre de l'Intérieur n'a pas pris soin de notifier le gouverneur sortant. C'est comme ça que lui aussi pose des actes de gestion. Entre-temps, le vice-gouverneur pose également des actes de gestion. C'est la confusion totale. Et puis par rapport aux deux bureaux parallèles, si vous lisez cet arrêt-là, l'arrêt ne réhabilite pas le bureau Kilio. Kilio est parti de l'Assemblée provinciale avant même le problème de Mboyo. Et la procédure Mboyo ne concerne en rien Kilio, parce que c'est une démarche individuelle. Madame.
Et donc, selon vous, si on vous comprend bien, on va finir par là avant de passer la parole à Maître Kietzinge, Joseph Fabien Mungunza, vous estimez que la province de l'Équateur ou les problèmes de la province de l'Équateur est entretenu par Kinshasa?
Oui, Kinshasa ne voudrait pas qu'on en sorte le plus tôt possible.
Merci.
Nous avons bien d'autres preuves que nous pouvons donner, mais malheureusement, le temps nous imparti ne nous le permet pas.
Alors, on va vous redonner la parole après ce premier tour de table. Maître Gilbert Kiatingue, comment vous analysez cette situation de l'Équateur, hein?
Oui, merci beaucoup, madame. Je voudrais commencer par m'acquitter d'un agréable devoir, celui de saluer tous les auditeurs de la Radio Okapi, qui, j'en suis sûr, nous suivent très minutieusement à ce moment. Et je voudrais aussi présenter mes félicitations à votre radio, parce que vous savez, ce genre de débat, ça peut contribuer aussi à la solution. Lorsque les gens se défoulent, lorsque les gens extériorisent leur passion, et très souvent, c'est déjà une partie de la solution. Mais la situation particulière de la province de l'Équateur relève d'une sorte d'imbroglio politico-juridique. Lorsque vous suivez l'analyse ou les déclarations de toutes les parties, eh bien, vous sentez tout de suite, vous vous rendez tout de suite compte qu'il y a un alisement. Ils se sont alisés dans des conflits interinstitutionnels. Il y a d'abord conflit au niveau de l'Assemblée provinciale elle-même. Conflit institutionnel. Un bureau qui demain un autre qui est réhabilité, ça fait un conflit au sein d'abord de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale créer un autre conflit interinstitutionnel avec le gouvernement provincial. Et comme vous le savez, ce genre de conflits politiques finissent par être soumis à l'examen des juges. Alors, conflit politique transformé en conflit judiciaire, des arrêts qui sortent, qui sont interprétés par chaque camp, chacun à sa manière, ça crée ce que j'appelle l'imbroglio politico-juridique. Ça crée un enlisement. Et lorsqu'on est enlisé dans une situation, on cherche des solutions. On cherche aussi des boucs émissaires. Qui sont derrière cela? Voilà pourquoi on accuse tour à tour le gouvernement, le chef de l'État, en tant que garant de la nation. Mais je voudrais ici, sans pouvoir, parce que je connais pas, parce qu'il y a des causes endogènes, des causes exogènes de ce conflit, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Ce n'est pas le premier conflit. Vous vous rappellerez qu'à un moment donné, dans cette même province, il y a des députés qui n'ont pas accepté de venir siéger en Bandaka parce qu'ils voulaient obtenir leur province. Ils pensaient que, comme la Constitution a déjà subdivisé la province en d'autres provinces, eh bien, ils considéraient que leur province doit être mise en œuvre. Eh bien, donc, il y a fait un problème sociologique également à ce niveau-là. Il y a donc des grandes ethnies. Vous voyez les Mongo qui sont là, les Mbouza et les autres. Il y a donc les provinces qui sont déjà consacrées par la Constitution. Morcella, en fait, la ancienne province de l'Équateur. Et elles répondent en fait à un besoin. Et ce besoin se fait ressentir maintenant. Et c'est ce besoin-là qui crée ces conflits-là. Les gens qui sont de la Mongala, ils se sentent pas très à l'aise avec les gens de la province qui est aujourd'hui district, de Haut-Toubangui. Donc c'est vraiment des problèmes sociologiques qui viennent se mêler au conflit d'intérêts entre un gouverneur qui peut être de l'obédience de tel camp et qui n'est pas de tel autre camp. L'ensemble de tout cela crée un imbroglio et nous amène à la situation de ce jour.
Mais comment vous répondez à ceux qui pensent que cette situation est entretenue par Kinshasa, je dirais?
Bon, vous savez, il est difficile de vérifier ce genre d'allégations. Mais sur le plan technique, je ne vois pas. Je vois les mécanismes qui sont prévus par la Constitution. Lorsqu'il y a une crise persistante qui menace le bon fonctionnement des institutions, dit la Constitution, eh bien, le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée provinciale. Mais est-ce que, pour le moment, le gouvernement central ou le chef de l'État a intérêt à dissoudre l'Assemblée provinciale de l'Équateur alors que les députés sont fait mandat? Parce que la Constitution l'oblige à organiser d'autres élections dans 2 mois. Est-ce qu'en organisant de nouvelles élections, on a des ressources? Est-ce qu'on a encore le... C'est opportun d'abord, parce que on sait que tout le pays attend l'organisation de nouvelles élections provinciales.
Et donc, selon vous, Maître Kiatsing, la société civile de l'Équateur s'est trompée des cibles?
Bon, heureusement que j'ai senti une atténuation dans son affirmation. Le chef de l'État est mis en cause en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Et là, je rappelle qu'il y a notre système actuel prévoit que les institutions provinciales sont différentes des institutions nationales. Donc, il y a des mécanismes qui sont prévus pour que le chef de l'État intervienne dans le fonctionnement des institutions provinciales. Je viens de vous expliquer comment il peut prendre une ordonnance pour dissoudre l'Assemblée nationale ou pour démettre le gouverneur après avoir consulté le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée du Sénat. Et à charge pour lui de faire organiser des élections dans 2 mois. Alors, la question de l'opportunité se pose. Est-ce qu'il faut dissoudre? Mais est-ce que, même en dissolvant, il est sûr de récupérer sa majorité? Parce que la majorité, il faut en tenir compte si on organise de nouvelles élections. Il faut être sûr qu'on va continuer à avoir la même issue les députés nationaux provinciaux pour que le gouverneur soit de l'obédience de la majorité. Et donc, il y a toutes ces questions-là qui font qu'il faut quand même se demander quel intérêt on peut avoir actuellement à dissoudre une assemblée provinciale qui est déjà fait mandat.
Merci, Maître Gilbert Kiatsingé, Joseph Kongolo. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Quelle est votre lecture par rapport à la situation de l'Équateur depuis juin 2012, quand on est en face d'une crise dans cette province?
Merci beaucoup pour la question, madame. D'abord, je considère que la crise à l'Équateur n'a pas commencé en 2012. C'est une province...
Bien avant 2012 aussi.
Bien, voilà. Donc, c'est une province qui a connu beaucoup de transes dans le fonctionnement des institutions provinciales. Et c'est depuis le début de la législature, 2006, que cette province a connu beaucoup de problèmes dans son fonctionnement. Et je considère que pratiquement l'évaluation de institutions, du fonctionnement des institutions au niveau de la province de l'Équateur, c'est vraiment un échec. Mais pourquoi c'est un échec? Je crois qu'il faut d'abord considérer la forme de l'État que nous avons consacrée par la Constitution de 2006. Nous sommes dans ce qu'on appelle le régionalisme politique. Dans le régionalisme politique, c'est vrai, on a conféré une certaine autonomie au niveau des provinces. Une certaine autonomie au niveau des provinces, mais qui est encadrée par l'autorité nationale. Donc le régionalisme est différent. Le régionalisme politique dont il est question ici est différent du fédéralisme. Ça veut dire l'autorité nationale, l'autorité centrale, a un regard, qui n'est pas une tutelle bien entendu, mais a un regard sur les provinces, parce que nous ne sommes pas dans le fédéralisme. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le régionalisme politique ne peut pas être confondu au fédéralisme. C'est comme ça que la déclaration du ministre, n'est-ce pas, Médé, je ne l'ai pas comprise vraiment dans le sens véritable de texte. C'est-à-dire que le président de la République, en tant que garant des institutions, il est responsable. Mais c'est un responsable politique, voyez-vous, et moral, n'est-ce pas, de ce déséquilibre de fonctionnement des institutions au niveau provincial. C'est en ce titre-là, je crois que le président de l'Assemblée provinciale vient de le préciser,
et de la société civile.
De la société civile, pardon. À ce titre, le président de la République est responsable politiquement du mauvais fonctionnement des institutions au niveau de la province de l'Équateur. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Deuxièmement, quand nous faisons l'évaluation de la première législature avec les nouvelles institutions, le régionalisme politique en question, nous trouvons quand même qu'en général, n'est-ce pas, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Si à l'Équateur, les dysfonctionnements sont sortis au clair, par contre, dans toutes les autres provinces, il y a eu des dysfonctionnements, mais qui ont été couverts par la subtilité politique, n'est-ce pas, des gouverneurs en place. Ils ont joué les jeux sur le plan politique, une manière de mettre soit l'Assemblée provinciale dans la poche ou au moins ils ont joué une certaine subtilité politique pour cacher les véritables dysfonctionnements au niveau de toutes les provinces. Donc je crois qu'il y a une évaluation sérieuse à faire avec ce régionalisme politique, n'est-ce pas, ce régionalisme politique au niveau des institutions provinciales. Je crois que c'est un problème très sérieux.
Lorsque, par exemple, le ministre Mende dit que le problème de l'Équateur, les responsables, les auteurs de la crise de l'Équateur, ce sont les politiciens de l'Équateur eux-mêmes qui sont responsables, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, il y a une part de responsabilité des politiciens eux-mêmes, mais aussi le gouvernement central ne devait pas laisser pourrir la situation. C'est-à-dire que la responsabilité est totalement partagée. C'est pourquoi je voudrais revenir sur ce que Maître Venet dit tout à l'heure. Je crois qu'il y a un problème, un double problème, sous le plan de droit. C'est vrai qu'il y a des textes qui sont restés lettres mortes, qui ne peuvent pas être exécutés. Et cela a exacerbé pratiquement la crise. Et de l'autre côté, il y a un problème d'ordre politique. C'est comme ça que le président de la société civile disait tout à l'heure, l'ensemble, n'est-ce pas, des députés, des sénateurs de la province de l'Équateur, il est condamné. C'est tout simplement parce que il devait aussi utiliser des voies politiques, utiliser d'autres voies, n'est-ce pas, pour pouvoir exercer l'influence de manière à ce que les institutions rentrent dans l'ordre. Donc, ça, c'est aussi une responsabilité. Nous ne pouvons pas nous soustraire. C'est une responsabilité établie de toutes les autorités politiques de la province de l'Équateur qui devaient aussi utiliser des voies politiques, n'est-ce pas, des voies informelles, pour pouvoir influencer, n'est-ce pas, le fonctionnement des institutions locales. Je crois que la déclaration, elle a respecté les mesures, quand bien même les gens veulent comprendre ça de manière un peu... déterminante. Non. C'est-à-dire que la déclaration a été correcte. Il y a une responsabilité de l'autorité nationale qui devait jouer pour pouvoir mettre de l'ordre dans le fonctionnement des institutions de la province, mais aussi des notoriétés, des notables de la province, originaires de la province de l'Équateur, qui devaient aussi jouer un rôle, n'est-ce pas, dans le rétablissement du fonctionnement normal des institutions.
Alors, Joseph Kongolo, il y a cet auditeur de Kisangani, Pepeli Sungi, qui dit ceci, la société civile a raison, car le gouvernement central contribue à plusieurs désordres administratifs qui continuent à se passer dans plusieurs provinces du pays. Le gouvernement congolais, il y a presque 10 ans, a soutenu les individus et non la population n'est pas acceptée. C'est ce que dit la société civile, c'est de continuer à tromper la population. Accuser les politiciens d'être à la base de cette crise, c'est taper à côté, car on sait que les politiques travaillent sous la supervision du gouvernement et de la présidence. Donc il faut être clair, le gouvernement central voudrait récupérer la gestion de l'Assemblée provinciale entre les mains des opposants, comme il a fait avec le gouvernorat de cette province.
Bon, c'est une lecture que je ne peux pas exclure d'emblée. Parce que vous savez que la province de l'Équateur, c'était la seule qui était dirigée par l'opposition. Je crois que dans une lecture globale, il a voulu être démontré quelque part que l'opposition est incapable de légiférer. L'opposition est incapable de gérer. Je crois que dès le départ, nous savons comment le premier gouverneur de l'opposition a été démis de ses fonctions, nous savons toutes les manœuvres qui se sont passées en coulisses. Je crois que c'était ça au départ, l'idée, n'est-ce pas, de cet exercice, ces jeux de force entre l'opposition et le pouvoir dès le départ. Et je crois que la situation, on l'a laissée comme ça, elle a pourri aujourd'hui et elle a compliqué, elle a créé, n'est-ce pas, des dysfonctionnements, du désordre entre les députés eux-mêmes qui ont abandonné pratiquement leur parti politique, qui sont maintenant dans l'autre camp, et c'est ces deux ordres-là, n'est-ce pas, ce va-et-vient, qui créent, n'est-ce pas, cet imbroglio qu'on venait de dire tout à l'heure, maître. Je crois qu'il y a un problème sérieux de compétences d'abord. Est-ce qu'on a compris le système dans lequel on est en train d'évoluer? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une carence de culture politique. Les gens n'ont pas la culture politique, n'ont pas la capacité de saisir, n'est-ce pas, le fonctionnement des institutions. Et troisièmement, c'est un problème de droit. N'est-ce pas? Des lois sont restées non appliquées et ça pourrit, ça fait pourrir la situation.
Merci.
Et aussi, il y a un problème d'ordre politique, c'est que les gens n'ont pas cette conscience politique, cette responsabilité politique, n'est-ce pas, pour pouvoir aider à couler les choses dans un couloir de stabilité
Merci
institutionnelle.
Merci Joseph Kongolo. Fabien Mungunza, il y a cet auditeur Mouziazia Jacques qui dit ceci, il demande que signifie société civile, car celle-ci est aussi à la base des conflits et est utilisée par certains politiciens pour déstabiliser le pouvoir. On ne doit pas croire en tout ce que cette société civile de l'Équateur dénonce dans leur déclaration-réaction.
Bon, je considère que quelque part il peut avoir raison. Parce que compte tenu du rôle joué par la société civile et que joue la société civile, elle a toujours été l'objet d'une certaine infiltration de la part de l'autorité politique pour pouvoir l'influencer. C'est vrai, mais je crois qu'il y a des hommes et des femmes dans la société civile qui essayent de rester vraiment l'église au milieu du village et de faire convenablement leur travail. Et sans fausse modestie, je puis dire que nous pouvons être de ceux-là.
Alors, vous avez suivi les analyses de Maître Kieting et Joseph Kongolo. Un mot par rapport à ce qu'ils ont dit?
Oui, je voudrais dire que je suis complètement d'accord avec l'analyste Kongolo. Ce qu'il a dit est tout à fait exact. Mais je ne suis pas d'accord avec notre frère.
Avec Maître Kieting?
Maître. Oui, spécialiste de la décentralisation. Je voudrais lui dire que la donne ethnique dans ces conflits est tout à fait marginale. Lorsque vous regardez tout le monde qui s'oppose aujourd'hui au gouverneur de province, c'est toutes les tribus confondues. Et même dans son propre village, il y a des gens qui s'opposent à lui. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est la gestion calamiteuse de la province de l'Équateur. C'est comme s'il a eu une carte blanche, un chèque en blanc de l'autorité centrale pour faire à l'Équateur tout ce qu'il veut, tout simplement parce qu'à un moment donné, je crois, l'analyste l'a dit, il fallait que l'Équateur rentre dans les rangs ayant été l'unique province à être dirigée par l'opposition, il fallait quelqu'un pour pouvoir faire en sorte que l'Équateur prenne le chemin de toutes les autres provinces. Et c'est ça que nous pensons. C'est comme ça qu'on a donné au gouverneur la liberté de faire tout ce qu'il peut. Comment pouvez-vous comprendre, madame, que l'autorité qui est chargée de nous sécuriser, nous, aujourd'hui, mais elle est capable d'entretenir, elle se permet d'entretenir des milices qui sèment l'insécurité dans la ville. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les responsables de la société civile, tels que moi qui suis au micro, nous sommes menacés d'arrestation. Il y a eu une réunion du Conseil de sécurité où l'ANR doit mettre la main sur nous. Et même les journalistes de radio au CAPI, tout simplement parce qu'ils ont rendu compte de la déclaration de la société civile. Mais les Kuruna, qui sont à la solde du pouvoir du gouvernement provincial, sont en train de les lister parmi les têtes à abattre dans cette province. Madame, mais on peut vivre comment dans ces conditions-là? On assiste à un pillage systématique des ressources de ce pays, qu'on se partage avec certaines personnalités de Kinshasa pour constituer un lobby de protection à ce niveau-là.
Merci, monsieur.
C'est des choses impossibles, madame. Donc, c'est la mégestion qui a fédéré même l'inconciliable. Merci. Aujourd'hui, lorsque vous prenez les nouveaux bureaux élus, là.
Merci, monsieur Mouza.
Vous perdez les MLC, qui, au niveau central, il y a le PPRD dans la majorité, les MLC dans l'opposition. Mais ici, ils se sont mis ensemble dans les bureaux. Tout simplement parce que la gestion est telle que si nous-mêmes qui habitons cette province, nous ne nous levons pas pour dire non, eh bien, la descente aux enfers continuera.
Merci, monsieur Mungunza. Quelle solution trouver à la situation qui sévit actuellement dans la province de l'Équateur? C'est la deuxième partie de notre débat de ce soir. Je rappelle que je reçois dans cette émission pour les débats Fabien Mungunza, président de la coordination de la société civile de la province de l'Équateur, maître Gilbert Kiatingé, avocat et expert en décentralisation, et Joseph Kongolo, analyste politique. La solution de la crise qui paralyse l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial de l'Équateur ne passe pas par quatre chemins. C'est un problème de droit et non des sentiments. Ces propos sont ceux du député Henri Thomas Lokondo, élu d'Mbandaka. Il réagissait aux déclarations de la société civile de l'Équateur et du porte-parole du gouvernement central quant à la situation qui secoue les institutions provinciales. Selon lui, le chef de l'État est revêtu des prérogatives constitutionnelles pour venir à bout de cette situation. Toutefois, il estime que si, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, la justice devrait agir en dernier ressort pour mettre un terme à cette situation. On écoute Henri Thomas Lokondo au micro de Jacques-Yves Molima.
Le président de la République a une responsabilité constitutionnelle évidente quant au bon fonctionnement des institutions provinciales. Sinon, pourquoi nous avions modifié la Constitution en lui accordant, conformément aux articles 197 et 198 de la Constitution, par exemple, de relever de ses fonctions un gouverneur de province? Si le chef de l'État et le gouvernement ne peuvent pas s'ingérer pour le moment dans l'appui de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, la Cour suprême de justice qui est saisie du dossier doit faire son travail. Donc la solution ne doit pas venir des autorités de la province ni des institutions de l'Équateur, parce que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Mbandaka, réhabilitant l'ancien bureau, a été attaqué par le bureau Ibambé. Et l'appel revêtant un caractère suspensif, selon la Constitution, c'est le bureau Ibambé qui aurait dû continuer à travailler, mais ce n'est pas le cas pour le moment. C'est cela le problème. C'est un problème de droit et non des sentiments.
Gilbert Kiatingé, réaction par rapport à la proposition de Henri Thomas Lokondo, qui estime que le chef de l'État est capable de trouver une solution à ce problème, contrairement à ce que le porte-parole du gouvernement a dit, que c'était un problème des politiciens de l'Équateur qui devaient trouver une solution.
Oui, merci beaucoup, madame. Je crois que, comme je vous ai dit, que c'est vraiment un cas d'enlisement, d'imbroglio total. Même lorsqu'on me reproche ici d'avoir mis la donne ethnique dans ce conflit-là, je persiste, je signe. Parce que même au niveau de l'Assemblée provinciale, vous voyez qu'il y a deux bureaux, il y a des gens qui se tiraillent dessus. Ce n'est pas le problème seulement au niveau de l'Assemblée contre le gouverneur, mais il y a aussi des problèmes internes à l'Assemblée provinciale où chaque ethnie ou chaque groupe veut faire prévaloir ses revendications.
Et mais quelle serait la solution, selon vous?
Je voudrais tout de suite chuter sur la solution. En fait, vous savez, en tant que juriste, je sais que lorsque les juridictions sont saisies, même le chef de l'État, même les membres du gouvernement qui ne sont pas au-dessus de la loi, doivent s'en remettre à la décision de la justice. Donc il y a une situation qui se passe à l'Équateur. Les protagonistes ont saisi la justice, d'abord la Cour d'appel qui s'est prononcée, et ensuite au degré d'appel la Cour suprême de justice. Je crois que ce serait malvenu qu'un ministre ou un chef de l'État soit-il vienne prendre une décision alors que on attend une décision au niveau de la Cour suprême de justice. Ce serait violer tout simplement le principe de la séparation des pouvoirs qui est très cher à notre constituant. L'une des solutions,
on attendait quand même cette décision de la Cour suprême de justice depuis le 25 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 11 février.
Bon, écoutez, nous ne pouvons pas faire le procès du fonctionnement de nos institutions judiciaires ici devant ce micro, mais au moins, tant que nous savons que la Cour suprême est saisie, nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre. Mais ça, c'est une solution, disais-je à court terme.
Entre-temps, le chaos persiste, on va attendre jusqu'au quand?
Oui, mais s'il y a trouble à l'ordre public, il y a des mesures que le ministre de l'Intérieur peut prendre. Il est nécessaire quand même que la justice départage les parties à temps. Mais à long terme, je vous dis, madame, que la solution à l'Équateur sera de mettre en œuvre rapidement le découpage tel que prévu par la Constitution. Lorsque chaque province créée par la Constitution va se retrouver avec son assemblée provinciale, vous allez voir que le nombre de conflits va diminuer. Parce que la province de l'Équateur, je dois vous le dire, je l'ai même déjà dit ici, ça aura été la province qui aura été caractérisée par le plus grand nombre de conflits, mais aussi une productivité législative très basse par rapport à toutes les assemblées provinciales de notre pays. La province de l'Équateur est celle qui a produit le moins d'édits, un nombre très ridicule d'édits, parce que tout le temps, on disait là des conflits.
Est-ce que les notables de cette province ont un rôle à jouer dans la recherche de la solution?
Je crois, madame, je voulais même le dire devant ce micro, il y a émiettement du leadership au niveau de l'Équateur. On ne sent pas un leadership émerger. Il y a beaucoup de leadership émiettés, donc il y a beaucoup de personnalités là qui ont chacun un leadership, mais malheureusement, on ne sait pas faire ce qu'on appelle la cohésion. On ne sait pas trouver un leadership émergent qui soit capable de mobiliser les autres petits leaderships pour qu'on trouve une solution qui soit favorable à toute la province. Et donc, c'est ça aussi le problème. Le conflit d'intérêts est tellement exorbitant là-bas, tellement sérieux, que on ne sait pas trouver un leader qui peut mobiliser tout le monde.
Merci.
Parce que l'opposition, la majorité, on ne sait pas trouver quelqu'un qui soit au milieu du village, comme une église au milieu du village.
Merci, maître
Kiatsingé. Pour fédérer toutes les tendances.
Merci, maître Kiatsingé. Joseph Kongolo, il y a des propositions des auditeurs. C'est le cas de Sosten Nebanyaka qui pense que la solution, c'est tout simplement dissoudre l'Assemblée provinciale. Robert Baume et des Bukavu Sud Kivu, il dit ceci, c'est simple de résoudre cette crise de l'Équateur. Étant déjà persistante, je pense que l'implication personnelle du président de la République dans celle-ci s'avère maintenant nécessaire de par les prérogatives que lui reconnaît la Constitution dans sa dernière modification, auquel cas le contraire donnerait interprétation à autre chose, le manque de volonté politique par rapport à la solution de cette crise.
Merci. Bien, merci beaucoup madame pour la question, mais je voudrais revenir sur la question tout à l'heure sur la société civile. Je crois que aujourd'hui, la société civile c'est un acteur majeur, n'est-ce pas, sur la scène politique aujourd'hui. Sonner la sonnette d'alarme, comme elle vient de le faire, c'est un élément très important dans la recherche des solutions. Et je crois qu'elle a un rôle principal, c'est celui d'empêcher que tous ces pouvoirs ne puissent pas se transformer en des mécanismes sans âme qui arrivent à servir la population. Je crois que c'est, elle a joué véritablement son rôle pour sonner l'alarme. Le premier problème, la solution, il faut dissoudre. Non, je crois qu'il n'y a pas d'opportunité. En politique, une décision doit être opportune, et particulièrement dans les situations exceptionnelles où se trouvent les assemblées provinciales aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas d'opportunité à dissoudre aujourd'hui l'Assemblée nationale.
Provinciale.
Monsieur Thomas Lokondo, il l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il y a un problème d'opportunité. On ne peut pas prendre une décision parce que le cas se présente, mais on doit étudier les conditions de faisabilité, les conséquences, ainsi de suite. Il y a un tas d'éléments qui militent en défaveur, n'est-ce pas, de la dissolution par le président de la République de l'Assemblée provinciale aujourd'hui. L'autre auditeur venait de parler tout à l'heure. Je crois que la voie politique, moi je crois que c'est une des voies qui peut arriver n'est-ce pas, à atténuer toutes ces tensions, c'est la voie politique. La voie politique, c'est laquelle? Contrairement à ce que Maître devait dire tout à l'heure, je crois qu'il y a des notables dans chaque coin de la province qui peuvent être mis ensemble, n'est-ce pas? Pas seulement des notables politiques. Il y en a des chefs coutumiers et tout ça, des gens qui ont de la notoriété, qui ont de l'audience auprès des autres, mis ensemble et qui peuvent mettre les histoires en ordre. Pour revenir maintenant à des solutions, n'est-ce pas? Parce que
rapidement, on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, je crois que Maître venait tout à l'heure, le découpage serait aussi une voie pour trouver une solution, n'est-ce pas, à gérer toutes ces ambitions, n'est-ce pas, au niveau des provinces. Deuxièmement, c'est l'application de la loi. Je crois que quand les lois sortent, elles doivent être appliquées. Quand on les laisse sans être appliquées, elles font pourrir la situation, et quand la situation pourrit, parfois la loi est dépassée elle-même. En ce moment-là, c'est pas bon. Donc, il faut appliquer les lois quand elles sont prises. Troisièmement, il faut organiser des séminaires de formation. Je crois que les gens n'ont pas compris aussi dans quel cadre ils évoluent. Il faut des séminaires de formation à l'endroit des députés provinciaux, à l'endroit même des gouverneurs. Je crois qu'ils doivent comprendre comment ils fonctionnent, c'est dans quel cadre qu'ils fonctionnent. Ce sont des éléments sur lesquels, n'est-ce pas, on peut s'apesantir pour pouvoir trouver une solution en attendant, n'est-ce pas, les élections prochaines.
Alors, une autre petite réaction rapidement, Joseph Kongolo. C'est Maître Francis Do Joseph Bonjemba Lokombe de Kinshasa qui dit ceci. Courage à la société civile, car elle a dénoncé ce qui ne pouvait pas être dénoncé. La solution aujourd'hui est le départ du gouverneur Bayende.
Écoutez, brièvement, nous n'avons pas tous les éléments aujourd'hui. Et le départ du gouverneur risque aussi de ressurgir d'autres problèmes. Je voudrais qu'on étudie froidement le dossier, n'est-ce pas, et qu'on voit ce qu'on peut faire, parce que on n'a pas tous les éléments. Je crois qu'il faut étudier froidement le dossier.
Merci.
Et appliquer l'arme de la justice et tous les éléments, les lois qui sont restées en suspens, pour pouvoir trouver une solution là-dessus.
Merci, Joseph Kongolo. Fabien Mungunza, quelles sont les propositions que vous faites pour mettre fin à cette crise qui perdure quand même dans votre province?
Oui, je suis dans la province. J'ai une lecture plus ou moins exacte de la situation. Sincèrement, au moment où nous sommes, c'est un problème d'application de la loi. Un problème de droit, madame. Le gouverneur est mis en accusation par l'Assemblée provinciale, notifié par la Cour suprême. L'article 160 de la loi électorale dit que le gouvernement est démissionnaire. Et c'est le vice-gouverneur avec les ministres qui expédient les affaires courantes.
Oui, quelles sont les
En attendant que la Cour suprême ne se prononce. Déjà, cette loi-là, à cet article-là, si elle est appliquée, elle pourra apaiser de beaucoup la situation. Pour ce qui concerne le bureau de l'Assemblée.
Oui, deuxième solution.
L'Assemblée a interjeté appel. Oui.
On n'a plus beaucoup de temps. Résumez-vous,
Monsieur
Fabien
Mounda. L'Assemblée a interjeté appel en annulation de cet arrêt-là auprès de la Cour suprême. Et donc, cet arrêt-là ne peut pas être exécuté. Je vous dis même que cet arrêt a été exécuté par M. Kilio lui-même.
Qu'est-ce qu'il faut
parce
aujourd'hui?
Que le greffier de la Cour d'appel a dit que le problème étant transféré à la Cour suprême.
Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui,
M. Mounda?
Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui?
Et donc, il faut restaurer le bureau Ibambe en attendant, et que le gouverneur de province, mis en accusation, bientôt prévenu devant la Cour suprême, arrête de gérer la province et laisse la place au vice-gouverneur.
Merci, Maître Fabien. On considère ça là comme votre
Monsieur
conclusion.
Monsieur Fabien, je ne suis pas maître, madame.
Monsieur Fabien, excusez-moi. Gilbert Kessing, il y en a un mot. Juste un mot. Pour conclure.
Je voudrais quand même que la population de l'Équateur se mobilise. On a vu dans cette province-là un petit conflit d'eau dégénéré en conflit ignélé. Et donc, souvent, des petites choses en Équateur produisent beaucoup de conséquences.
Merci.
Faut donc trouver
Merci,
une solution.
Maître Kiatsingé. Joseph Kongolo.
Je crois que l'État doit être suffisamment représenté dans différents coins de la République pour pouvoir résoudre certains petits problèmes qui naissent entre les gens. Et je crois que c'est de cette manière-là qu'on peut atténuer un peu les conflits sociaux.
Merci, Joseph Kongolo. C'est la fin de cette émission. Merci à Dieudonné Nyankasa qui était à la technique, au micro Kéline Kouté. Merci à Guy Mathé Alain et Samuel Kachak pour la supervision de Pelé Équipe et Lamondo. Prédiffusion demain 4h15, heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.